Merci Simon de l'invitation. Merci à tout le monde d'être là ce soir. David Bélanger avait commencé sa conférence en septembre en disant qu'il avait l'impression un peu de resquiller. Et je peux te dire, David, il n'est pas ici ce soir, mais si tu m'écoutes, David, dans le futur, je peux te dire que je partage tout à fait ton impression. Durant mes années de maîtrise, que ce soit à l'épicerie, au détour d'un corridor de l'UQAM, dans un party de famille, ou même dans un small talk de vestiaire de piscine, j'ai eu droit à cette question devenue bien familière avec le temps. Sur quoi tu travailles? Les réactions différaient toujours. Sur quoi tu travailles? Sur la revue Liberté. Silence, froncement de sourcils. Ah ouais, ça me dit quelque chose, avec l'air des fois que les gens prennent quand ils savent pas trop de quoi il est question. Sur quoi tu travailles? Sur la revue Liberté. Une revue? Ouais, québécoise en plus, fondée en 59 par une gang de grands-pères tranquilles. Certains voyaient dans mon intérêt pour une publication périodique une sorte de rappel de mes études en journalisme que j'avais abandonné. D'autres, une curieuse inclination que m'avait à l'évidence transmise à Michel Lacroix dans un cours sur les revues québécoises. Sur quoi tu travailles? Sur la revue Liberté. Je te dis, c'est vraiment intéressant. Pourquoi donc s'intéresser aux revues littéraires et intellectuelles dans un cadre universitaire? Pourquoi plonger dans un corpus parfois énorme? Liberté compte, à titre d'exemple, 55 ans d'existence, 306 numéros, au bas mot, un minimum de 3000 textes. Et des fois, les corpus sont très limités. Je pense à la revue contre-culturelle Alléchier, par exemple, qui compte deux numéros en 69, environ 9 articles. Pourquoi donc plonger dans ce corpus d'essais, de critiques, d'éditoriaux, de chroniques, de fictions, de poèmes, d'entretiens, de correspondances, de pamphlets, de pastiches et autres textes indéterminés qui vont de la liste à la fausse publicité? Je vais faire d'abord un détour pour répondre à ces questions par une anecdote. L'autre jour, mon ami Julien m'a lancé avec ce ton ironique et blagueur qui le caractérise. Les études québécoises, c'est juste Saint-Denis Garneau. Toujours, point. Bon. On va jouer le jeu un instant, là, mais mettons que les études québécoises, c'est juste Saint-Denis Garneau. Ça veut dire qu'il faut aussi considérer que les études québécoises, c'est aussi la revue La Relève, avec laquelle le poète entretient des liens privilégiés et à laquelle il collabore régulièrement. Que c'est aussi l'Action nationale, dans laquelle Saint-Denis Garneau publie ponctuellement des articles. Que c'est aussi la Nouvelle Relève, dans laquelle se publiera des textes importants sur son œuvre. La publication de ces textes dans ces revues n'est pas anodine ni le fruit du hasard. Elle signale l'inscription du poète dans un réseau au circuit des conceptions de la littérature, un discours sur celle-ci, des formes et des idées en prise sur le discours social. Si les études québécoises, c'est juste Saint-Denis Garneau, je te dirais, Julien, que c'est Saint-Denis Garneau et ces revues-là, et qu'elles sont indissociables, tant au sein de sa poétique que de l'histoire littéraire. Plus largement, la participation d'un écrivain ou d'une écrivaine à des revues nous dit quelque chose de sa pratique et quelque chose de ses revues et conséquemment d'un état de la littérature. Il est significatif que Miron publie L'homme agonique dans Liberté, par exemple, que Paul Chamberlain fasse paraître l'afficheur Urbe dans Parti pris, et plus près de nous, que Mathieu Arsenault participe à OVNI, Yvon Rivard à Contre-jour, Fanny Britt à Nouveau projet. Pensez ensemble la poétique de leur auteur, les textes écrits dans une revue, cette revue-là avec son identité et ses réseaux, permet d'éclairer autrement l'histoire littéraire et de comprendre comment les discours et les pratiques littéraires se font, s'influencent, se croisent et se polarisent. À la suite de Michel Lacroix, je considère la revue comme le lieu d'une dialectique entre pratique singulière et pratique périodique, et pratique collective, par exemple. C'est-à-dire que périodique, c'est l'espace où s'établissent un dialogue, des écarts, des différences, des reprises et des déprises entre la poétique et les positions de l'auteur, et ce qui serait la poétique et les positions collectives de la revue, celles que constituent et redéfinissent chaque texte publié. Chaque revue a ses enjeux discursifs et idéologiques propres, qu'il s'agit de mettre au jour quand on étudie les revues. Chacune donne à lire sur sa scène de discours spécifique une manière de dire et de faire signifier l'époque. Les revues sont donc, d'une certaine façon, le lieu d'une littérature in flagrante, pour reprendre à Michel Lacroix une expression que lui-même repique à Valérie Larbeau. Donc, d'une littérature en flagrant délit, d'une littérature en train de se faire, prise sur le vif et en défaut. Alors, Michel, dans cet article, prend appui sur un livre d'André Fortin que ceux et celles qui travaillent sur les revues connaissent bien, « Passage de la modernité, les intellectuels québécois et leurs revues ». Et donc, Michel Lacroix affirme que 83 revues nouvelles ont paru au Québec entre 90 et 2004. Donc, 83 revues littéraires, artistiques, intellectuelles de façon indistincte. On compte parmi ces revues, donc, « L'Inconvénient » qui a été fondée en 2000. Et là, en 2003, on ne sait pas trop ce qui se passe, là, mais il y a vraiment plein de revues qui sont fondées. Je pense par exemple à Zinc. Je pense au cahier du 27 juin où on va retrouver Jocelyn McClure qui va ensuite aller fonder un nouveau projet en 2012. Je pense à la revue de résistance conservatrice Égard, qui existe toujours. Vous pouvez aller voir, c'est donc une autre façon de concevoir la résistance, très différente de celle de Liberté. Je pense aussi à la revue Dialogiste, qui compte Jean-Simon Desrochers dans son comité fondateur, je vais en reparler plus tard. Des cahiers littéraires contre-jour, de la revue Le Cartanier, donc en 2003 toujours, et de la conspiration dépressionniste, sous-titré ironiquement pour sa première édition, le magazine de la belle jeunesse. Donc, l'étude de Fortin s'arrête en 2004, mais on peut ajouter à la liste des revues plus récentes. Donc, je pense à OVNI en 2008, je pense à la revue Qui vive en 2010, à Nouveau projet et à Fermaille en 2012. Je pense à la revue féministe Françoise Stéréo. Salut à la camarade Marie-André. à l'évidence, les revues continuent d'être un projet collectif envisageable et un espace de discours nécessaire. Et certaines parmi des revues que je viens de nommer ne paraissent plus. Je pense par exemple au cahier du 27 juin. Je pense à OVNI qui est sur la glace depuis 2010. On ne sait pas trop non plus ce qui arrive avec la conspiration dépressionniste devenue la conspiration youpiste en 2013 et depuis peut-être emportée par la force de la révélation youpiste. Et donc cet été... nouveau projet aussi bien failli disparaître dans la foulée de la faillite des presses. Benjamin Langelier avait lancé un appel à la communauté de lecteurs et de lectrices là, pour éviter pour sauver Nouveau projet là, d'une fin imminente. Donc, l'objet de mes remarques, en fait, c'est surtout de souligner que la précarité constitutive au projet d'une revue littéraire, d'une revue, qu'elle soit littéraire ou intellectuelle. Et d'ailleurs, cette dénomination de littéraire et intellectuel ne va pas de soi, puis je vais la laisser de côté pour aujourd'hui. Bon, mets ça de côté. Et donc, comme le disait Bertrand Laverdure dans le premier numéro de OVNI, on sera sans toi ni loi et on mourra bientôt de la belle mort des revues, ou pas. Au fil du temps, donc, beaucoup de revues ont effectivement disparu, mortes de leur belle mort, certaines après quelques numéros seulement. Je pense par exemple à la revue Alléchi, dont je vous ai parlé tantôt. Les revues littéraires, surtout les petites, ne vont pas toujours survivre aux exigences financières, par exemple, de l'entreprise, aux ambitions des fondateurs et des fondatrices, aux tensions entre les membres du comité fondateur. La plupart du temps, une seule équipe et une seule fonde, dirige et voit disparaître la revue. D'autres, au contraire, perdurent et se renouvellent. Les revues Liberté et L'Inconvénient, par exemple, ont effectué une refonte de leur maquette. La première en 2012 et l'autre en 2014. Elles ne sont pas d'ailleurs sans se ressembler. Physiquement, d'ailleurs, j'entends votre indignation. donc, ces revues littéraires qui traversent le temps, par exemple, il y a aussi Les Écrits, qui est la plus vieille revue littéraire québécoise, donc ce n'est pas Liberté, c'est Les Écrits. Donc, des revues qui traversent le temps comme ça deviennent des institutions qui vont poser par leur durée l'enjeu de leur continuité. Donc, comment les différentes équipes modèlent-elles le lieu, en fonction de quoi, par rapport à qui? Les membres qui vont se succéder à leur tête vont faire leur entrer dans un lieu fort de sa mémoire et de son histoire, de son identité, de sa position dans le champ littéraire. L'histoire de la revue fait souvent partie de l'histoire littéraire. Je vais y revenir. Je vais terminer ce long préambule en avançant que le champ des revues constitue un champ discursif. Les revues entretiennent des relations entre elles et occupent des positions au sens politique et symbolique du terme. Les revues occupent également au sein de l'institution un lieu paradoxal, à la fois dans celle-ci et en situation médiologique avec les éléments qui le constituent. Leur saint patron serait-il Humpty Dumpty, comme l'avance Jean-François Bourgeot, cofondateur de Contre-jour dans un texte publié sur Salon Double? Serait-elle condamnée à une condition de l'entre-deux qui se jouerait dans cet espace intercalaire entre le savant et le médiatique? le rapport au canon littéraire et aux héritages qu'établissent ces revues, et conséquemment les conceptions de la littérature qui circulent au sein de leurs numéros, est déterminant, je crois, dans la façon d'occuper cet espace. Les différents numéros et articles de revues proposent des visions singulières, parfois partagées, parfois divergentes, du canon littéraire et de la bibliothèque idéale. De quelle filiation intellectuelle et de quels héritages les revues Liberté, de même que Contre-jour, L'Inconvénient et la conspiration des pressionnistes réclament-elles? Lesquelles refusent-elles? Qu'est-ce que ces grands ancêtres nous révèlent de leur conception de la littérature? Comment les références jouent-elles dans la construction d'un imaginaire, d'un discours, d'un état spécifique? Et surtout, que nous disent-elles du présent? Ce que j'avance ce soir provient d'une lecture donc, d'un corpus qui va des années 2000, qui va de 2005, 2006 à 2011. Donc, je vais faire un petit tour avec vous, un tour de piste du champ revuiste. Évidemment, il y en a plein que je laisse de côté ce soir. Mais donc, je vais dresser un bref portrait de chacune et des récits qui accompagnent et font signifier la figure de l'héritier. Et on va voir ce qui advient, Julien, de Saint-Denis-Garde. Donc, je vous présente d'abord la revue Liberté, sur laquelle donc, j'ai travaillé dans le cadre de ma maîtrise, comme vous le savez maintenant. donc, un petit détour historique s'impose. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, à sa fondation en 1959, la revue Liberté va se présenter comme un lieu de discussion des problèmes culturels et littéraires. Donc, des écrivains comme Hubert Aquin, Fernand Ouellet, Jacques Godbout et André Bellot vont faire partie du comité éditorial. Au fil du temps, plusieurs générations intellectuelles vont succéder à la tête de Liberté. On a pu lire Yvon Rivard, François Ricard, François Hébert, Marie-André Lamontagne, René Lapierre dans ses pages, et eux aussi vont occuper des postes au sein du comité de rédaction. Dans les années 90 et au début des années 2000, les préoccupations politiques des premières années, donc à Liberté, vont laisser la place aux enjeux de l'écriture et de la traduction, et la proportion d'essais, disons, politico-culturels va laisser la place... La proportion d'essais politico-culturels va être renversée au profit des essais, disons, littéraires, des chroniques et des textes de création. Et à partir de 2004, il y a un nouveau groupe d'intellectuels, il y a de nouveaux intellectuels qui vont arriver à la tête de Liberté, qui vont complètement changer la donne. Alors, je pense ici à Pierre Lefebvre, Olivier Quemède, Robert Richard, Louis-Jean Thibault et Philippe Gendreau, qui vont prendre la tête de la revue. Et en 2006, dans un texte intitulé « Assoiffé de sens », ils vont annoncer leur désir de faire de Liberté une agora à l'image de ce qu'elle était à ses débuts. La conscience d'entrer dans un lieu fort de son histoire et de sa mémoire est très, très marquée chez cette nouvelle équipe. C'est en fonction de l'héritage de la revue et de l'héritage de la Révolution tranquille, qui sont pour eux indissociables, que, en fait, c'est en fonction de cet héritage, donc, qu'ils vont marquer une rupture avec les années précédentes, qu'ils vont reconfigurer le lieu de discours et qu'ils vont se définir comme groupe. L'éditorial Assoiffé de sens va présenter, par exemple, la genèse de la revue qui est en phase avec la Révolution tranquille. Dans ce texte, le comité va construire aux fondateurs de Liberté une image qui va ensuite leur permettre de s'en présenter les dignes héritiers. Pour l'équipe de Lefebvre, Liberté, c'est l'urgence, c'est le travail autour d'un projet commun arrimé à la cité et en phase avec l'histoire, un lieu où la parole est politique et les intellectuels engagés et résistants. C'est une revue qui, écrivent-ils, la revue, ouais. C'est une revue qui est une arme, qui est, ils écrivent dans l'éditorial, bon, que la revue, c'est une arme de résistance culturelle. Un lieu, donc, où la parole a un poids et des dents, comme ils l'écrivent. Et donc, pour ce comité, les fondateurs de Liberté symbolisent l'esprit Liberté, ils l'incarnent absolument. Et même dans l'anthologie, ici... Robert Richard, qui est membre du comité de rédaction, va attribuer à tort un texte intitulé « Début d'inventaire », qui est un texte collectif engagé, mais qui est signé seulement par la moitié du comité de rédaction, la moitié donc des fondateurs. Et ce texte-là, donc « Début d'inventaire », symbolise au contraire, alors que Richard attribue cet essai-là au comité, en disant « Le comité est engagé, ils ont signé ce texte-là qui appuyait la grève des réalisateurs de Radio-Canada. » En fait, dans la réalité, ce texte-là symbolise les divergences même qui existaient à Liberté sur la question de l'engagement qui n'allait pas du tout de soi à l'époque. Et donc, cette erreur qui se trouve dans l'anthologie révèle chez cette nouvelle équipe la persistance d'une idée construite à la fois de la revue et des fondateurs de Liberté, le caractère un peu fantasmé, je dirais, de celle-ci. Et donc, à Liberté, les citations, les références et les allusions aux grands maîtres, grands ancêtres et autres grands écrivains ne vont pas se comprendre sous l'angle de la révérence ou du rejet ou de la quête, non plus sous un angle fraternel, comme dans les carnets de Stéphane Lépine qui sont publiés en série, donc dans Liberté, où dans les cahiers de Stéphane Lépine, les grands accompagnent l'écrivain dans sa réflexion sur l'œuvre et sur le monde. Je dirais que à Liberté, les textes ne disent pas non plus la reconnaissance d'un apprentissage qu'aurait accompli l'essayiste par la fréquentation, la lecture d'une œuvre et la connaissance d'un homme contemporain. Mais ils disent plutôt la lecture, voire la redécouverte d'une œuvre du passé qui permet de penser le présent. À ce titre, d'ailleurs, la rubrique « Le rétroviseur » lancée en 2013, où des auteurs québécois font une lecture, disons, actualisante du canon québécois, s'inscrit dans cette perspective. Et si dans l'éditorial « Assoiffé de sens », l'accent est mis sur l'indignation et la volonté de résister, il va se recréer au fil des textes des années 2000 une filiation plus large, fondée sur des valeurs de subversion, de dissidence, de résistance à l'ordre établi. Liberté va publier, par exemple, une série de numéros, disons, hommage, symbole d'une filiation plus collective. Je pense ici aux numéros sur René Char et Hervé Bouchard, Nikos Kachitis et Arthur Bui, qui vont devenir les figures d'écrivains résistants, que ce soit au dogme économique, à la marchandisation de la culture, à l'obscurantisme, à la censure, au dictat du consensus. Le numéro sur Bui est très éloquemment titré « Arthur Bui, notre contemporain », expression que reprennent Lefebvre et Louis-Jean Thibault dans le texte de présentation de la revue. Donc, Arthur Bui, c'est qui? Ben, c'est un essayiste, grand pourfendeur de la ville de Québec, de la politique québécoise et du clergé, coureur de jupons de surcroît. Né en 1840 et mort en 1901, Arthur Bui, donc, notre contemporain. Et donc, plus largement, je dirais qu'à Liberté, les maîtres à penser font écrire. C'est-à-dire que c'est leur figure d'écrivain avec c'est leur figure d'écrivain que l'on convoque avec tout ce qu'elle évoque comme imaginaire, comme axiologie, que l'on réécrit et représente sous un angle politique. C'est à partir de cette refiguration de l'écrivain choisi, des valeurs qui lui sont attribuées, que sont lus les enjeux politiques et culturels. Je pense ici à Paul-Émile Berduas et au Refus global, qui incarne par exemple un idéal artistique, une éthique de l'art, une dissidence intellectuelle que la société québécoise d'aujourd'hui refuserait à ses intellectuels et à ses artistes. On ne s'étonnera pas que dans cette galerie de grands ancêtres subversifs et combatifs, on ne retrouve pas Julien et Céline Garneau. Et non plus l'héritage des poètes de Liberté, comme Fernand Ouellet, par exemple. J'ajouterais qu'il n'y a pas de femmes non plus vraiment dans ces filiations littéraires. On note au cœur des discours une volonté de mettre en tension l'œuvre et les idées politiques et culturelles, de faire un lien entre les textes, leur contexte de publication et le contexte actuel de lecture et donc de réécriture. À ce titre, Hubert Aquin a une importance considérable. C'est l'auteur le plus cité et qui s'impose comme une figure tutélaire de la nouvelle équipe. C'est à partir de lui que va se concevoir à la fois le devenir de la littérature et de la société québécoise et le rôle de l'écrivain et de l'intellectuel. Aquin, pour l'information, a été rédacteur en chef de novembre 61 à septembre 62 et de 63 à 69, il ne fait plus partie du comité de rédaction, mais il va publier de 2 à 4 textes par année. À la lecture des textes de 2005 à 2011, il y a construction, refiguration d'Aquin par l'exacerbation de certains traits à la fois discursifs, donc l'éthos pamphlétaire de ses essais, et biographiques, son engagement, le fait qu'il fasse de la littérature, disons, subversive. Donc, traits qui composent sa figure d'écrivain. Les quelques 27 textes où il y a un intertexte aquinien vont créer ensemble une sorte de récit mythique. Peu lu ou mal lu, peu ou mal compris, exclu de l'espace public, l'écrivain l'est parce que ses propos choquent, parce que Aquin est un écrivain total. Il est relu et représenté comme cette ultime figure de la Révolution et d'une forme de souveraineté intellectuelle, comme cet écrivain qui a mis le cap sur le verbe, pour reprendre les mots de Robert Richard. Il faut d'ailleurs aller lire l'anthologie pour comprendre à quel point Aquin est une figure qu'on réécrit et qu'on remet en scène. Et donc, pour le comité Liberté, c'est la revue d'Aquin. Et c'est avec elle qu'elle a rencontré l'histoire. Lefebvre, dans le numéro 293, va s'insurger que Liberté n'ait pas été invitée à un colloque sur Akin qui se tenait à l'UQAM. Il dit que, vu les essais importants qu'Akin a publiés à la revue, il aurait pu au moins leur en faire part par courriel. en fait, donc, c'est toute la perception, c'est tout le discours que ce comité tient sur la revue qui, à mon sens, est teinté par ce qu'Akin dit de Liberté dans un essai qui s'intitule « Comprendre dangereusement » et parce qu'Akin a fait de Liberté quand il était rédacteur en chef. Quand on sait qu'Akin ne fait pas partie des fondateurs de Liberté, ça rend le tout un peu paradoxal. Et donc, à la refonte de la revue en 2012, ça a été l'occasion pour ce comité-là, cette nouvelle équipe, de réaffirmer l'importance d'Akin. Ils ont discrètement sous-titré cette édition « Comprendre dangereusement ». Quand il y a eu la campagne de financement cet automne aussi, ça s'est fait sous ce texte devenu emblème, finalement, « Comprendre dangereusement ». Et même l'autre jour, dans le journal, je suis tombée sur un encadré qui m'invitait à comprendre dangereusement l'austérité. Donc, Akin incarne pour eux cet idéal de l'essayiste, de l'intellectuel et de l'écrivain à Liberté. Et donc, le rapport que la nouvelle équipe établit à la revue est dénué de sentiments de dette. Ils ne subissent pas la contrainte du testament. Liberté est ce lieu et ce legs qu'ils choisissent. Dans l'éditorial assoiffé de sens, dans les numéros anniversaires qui soulignent le 50e anniversaire de la revue, dans l'anthologie publiée au Cartanier, je dirais que les essais sont relus, les héritages sont relus dans une perspective critique qui participe de la construction d'une figure de l'héritier. Cet héritier-là, à Liberté, est un intellectuel, orphelin de père et frère de tous, qui travaille et conquiert les héritages collectifs pour les redonner aussitôt à la communauté. Il ne pose pas tant un refus à la doxa, qu'elle soit historique, culturelle ou littéraire, qu'il souhaite la défaire, la trahir, pour mieux saisir en elle, une fois l'idéologie démasquée, ce qui appartient à tous. Si la résistance va être le mode d'être au présent de Liberté, si la conquête et la trahison caractérisent à Liberté le rapport au passé et à l'avenir, chez ces deux consoeurs, Contre-jour et l'inconvénient, le rapport au temps est dénué de tout caractère combatif. Les héritiers lecteurs de ces deux revues ne sont pas dans la réinvention, dans la réécriture des héritages, plutôt dans la présentation et dans la relecture de ces héritages, sous un angle littéraire ou philosophique. Le rapport au présent et à l'avenir est teinté d'une sorte de pessimisme qui amène tantôt une attitude de retrait, tantôt une sorte de désenchantement généralisé. Bon, d'abord, on va se le dire, là, Contre-jour et Contre-jour et l'inconvénient, c'est vraiment pas drôle. Hein? Contre-jour et l'inconvénient sont toutes deux nées de la côte de Liberté. C'est-à-dire que des membres fondateurs de ces deux revues ont d'abord participé à Liberté et des divergences sur les conceptions de la littérature et des manières d'habiter et de lire le présent vont les amener par la suite, quelques années plus tard, à fonder d'autres revues. À contre-jour, je dirais qu'on est du côté rivardien de l'existence. Autrement dit, les idées d'Yvon Rivard sont importantes et Rivard lui-même y a participé. Et il participe toujours, je pense. À la revue Contre-jour, ce serait, je pense, un euphémisme de dire qu'on est loin d'Akin et de son éthos belliqueux. L'autre jour, au Café des Arts de l'UQAM, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une expression d'Olivier Rollin, « les envoyés de l'indicible ». Je sais pas trop dans quel contexte Rollin l'a dit ni où, mais je sais que sous les néons du Café des Arts, dans cet après-midi gris de septembre, j'ai senti toute l'adéquation, tout le sens que prenait cette expression quand je l'accolais à Contre-jour. Contre-jour ou les envoyés de l'indicible. Je me suis dit, hey, c'est pas pire. Ça m'a fait penser au texte de Jean-François Bourgeot, un des membres fondateurs de Contre-jour, donc le texte où il parle de Humpty Dumpty. Et il affirme que les acteurs de revues incarnent, je cite, aux yeux de l'empire du nombre, c'est une expression de Valéry, ils incarnent les inspecteurs solennels des choses futiles, qui est une expression de Pessoa. Ce qui, à tout prendre, dit-il, vaut toujours mieux que d'agir en tant qu'inspecteur futile des choses solennelles, comme le font tant de chroniqueurs culturels. Fin de la citation. Inspecteur solennel des choses futiles. Je me suis dit, ben, c'est pas pire non plus. À contre-jour, il y a, je dirais, une préoccupation pour la littérature et la philosophie comme manière de s'inscrire dans le monde, de le lire, et de recréer à travers elle une communauté. S'y dessine en creux un rapport parfois grave aux choses. À première vue, les héritages littéraires et philosophiques sont lus à contre-jour dans une logique de verticalité. L'héritier philosophe va se présenter dans les textes comme maître d'une œuvre dont il va s'agir de mettre au jour les mystères, une sorte d'éthos d'herméneutique qui va se construire dans le texte. L'idée de la responsabilité, de notre responsabilité face au monde, est présente, mais s'énonce souvent dans un rapport à l'œuvre et à la société qui va être dénuée de politique. Le texte de présentation du dossier sur Pessoa, paru en 2004, va nous permettre de prendre la mesure de cet éthos et de cette figure de l'héritier qui va considérer le legs choisi avec une certaine distance. Donc là, j'ai deux citations longues dans cette présentation. Celle-ci, c'est la première. S'il y a une nécessité de relire aujourd'hui Pessoa, ce ne peut plus être pour célébrer cette multiplicité qu'il a instaurée et qui constitue notre praxis quotidienne, mais pour chercher à interroger ce que Pessoa voulait ouvrir à travers tous les masques qu'il a créés. Ce sera finalement pour tenter d'envisager Pessoa au sens le plus fort du mot, chercher de l'intérieur les formes d'un visage, qui ne sera certainement pas celui qui préexiste à tous ces masques, il n'y en a pas. Mais peut-être celui qui se découvre après la traversée des masques et à partir duquel nous pourrions aujourd'hui réfléchir en vue de constituer un sujet littéraire divers, mais responsable face au monde. Fin de la citation. Donc l'œuvre de Pessoa va apparaître ici comme ce qui va motiver une réflexion, voire une méditation, qui permet d'observer le monde à travers un retour de la pensée sur elle-même. Plus largement, je dirais que l'héritier à contre-jour est en quête de sens, celui de l'œuvre, celui de la vie, pris dans son acception sacrée de transcendance du réel, de finalité de l'existence. L'œuvre va faire méditer donc sur soi, sur le monde, c'est le temps long de la pensée qui va prendre le pas sur la brutalité du quotidien. Et l'humilité de l'héritier devant la grande œuvre apparaît comme une force, sa sensibilité marquée comme garante d'une lecture sensible de l'œuvre. Donc d'emblée, être héritier de Pessoa ou de Rivard ou de Jacques Brault, c'est faire sienne la force de ses œuvres, qui sont une réponse aux interrogations du lecteur-auteur. C'est réfléchir, dialoguer et surtout écrire avec elles. Donc la revue va consacrer plusieurs numéros à des philosophes, ce qui d'ailleurs la distingue des autres de ses consoeurs, disons. Donc à des philosophes, à des littéraires. Je pense ici à Yann Patoka, Jean-Marc Fréchette, Yvon Rivard, Jacques Brault, Yasushi Inoue, Jacques Derrida, Léopardi, Fernand Ouellet. Contre-jour prépare également, dans la prochaine année, un numéro sur Gaëtan Souci et un autre sur l'écrivain japonais Tanizaki. Donc, le panthéon de ses envoyés de l'indicible est celui des grands noms de la culture occidentale. Juste dans la citation de Bourgeot dont je vous ai parlé, il y avait déjà Pessoa et Valéry, qui a d'ailleurs de fervents héritiers et héritières à contre-jour. Ça ne m'a pas déplu. Donc, on voit bien aussi que la culture orientale n'est pas exclue de leur panthéon. Il n'y a pas, à contre-jour, une volonté comme à liberté de redonner un héritage qu'on considère mal connu. Il s'agit plutôt de tenter de dire le monde avec cet héritage, de le relire de façon philosophique en tant que littéraire. Et si à liberté, il y avait des valeurs de subversion, de résistance qui fondaient la sélection et l'écriture des héritages, à contre-jour, ce qui motive la sélection et la relecture est beaucoup plus difficile à saisir. La cohérence est beaucoup plus complexe à déterminer. J'avancerai que l'essayiste trouve dans les poètes et les philosophes qu'il choisit, dans leurs œuvres, une forme de résistance à un monde qui refuserait les questions existentielles et éthiques que pose la littérature. Pendant l'écriture de cette conférence, je m'amusais à donner des sous-titres à mes sections un peu comme des noms d'équipe. Donc, j'ai écrit « Liberté ou les épigones d'Aquin ». Salut! Contre-jour, donc, ou les envoyés de l'indicible. À l'inconvénient, j'ai un peu hésité. Là, je dis « L'inconvénient ou les adorateurs du roman avec un R majuscule ». J'ai cherché « L'inconvénient ou les lyriques ironiques ». Ah, bon, Simon m'a suggéré de l'inconvénient d'être né dans un monde où les gens ne lisent plus que des livres superficiels, mais je trouvais ça un peu long. je me suis dit, bon, je vais faire ce simple, j'ai titré, bon, l'inconvénient d'être dans ce monde. Donc, fondé en 2000, l'inconvénient va se situer dans la lignée directe de François Ricœur et de son maître K. Un petit détour par l'éthique ricardienne de l'existence et de la vie s'impose. Donc, je vais revenir à un texte qui a fait paraître dans Liberté qui me semblait emblématique d'une certaine façon. Ricœur écrivait que... OK, c'est une citation complexe. Ricœur écrit qu'il aime de la littérature. Ouvre les guillemets. Qu'elle soit, parmi tout ce qui me trompe, et tout me trompe, la seule chose qui, me trompant, avoue en même temps sa tromperie, comme la vie même, non? Fin de la citation. Et donc, pour Ricœur et pour l'inconvénient des années 2000, la littérature n'a aucun rôle, qu'il soit social ou politique, elle n'a à voir qu'avec elle-même. L'essayiste pose un regard critique et distancié sur le monde et la littérature. Il n'attend rien d'eux, mais trouve beaucoup à redire sur ce qu'ils sont. Il maîtrise le canon qu'il remet peu en question et en retrait du monde, il entretient un rapport souvent désenchanté avec le présent, parfois nostalgique de ce qui serait la grande époque du roman, souvent critique des travers de la société qu'il ironise souvent. Comme écrit le comité de rédaction dans l'éditorial inaugural, là je cite l'éditorial, l'esprit de l'inconvénient peut se définir ainsi. Quitter la scène et prendre place dans la salle. Attirer l'attention du lecteur sur le spectacle de l'existence, mais aussi sur l'obscurité qui l'environne, sur le néant au milieu duquel il se déploie, comme un miracle, une erreur ou une plaisanterie. Fin de la citation. L'inconvénient revendique pour le moins un regard lucide sur son temps. Pour le comité éditorial, la littérature est, je cite, un instrument de connaissance à part entière, et elle leur semble, fin de la citation, et elle leur semble liée à une vision donc pessimiste du monde. Et à l'inconvénient, dans ces années, les héritages apparaissent comme l'expression d'une idée de la culture, à laquelle la culture contemporaine serait perçue comme étant, d'une certaine façon, infidèle. Ces héritages sont en quelque sorte la mesure de la valeur, c'est-à-dire que ce sont les grands noms d'une culture humaniste et savante qui sont convoqués et avec lesquels on compare, directement ou indirectement, quand il en est question, la production contemporaine. Dans cette revue, fondée entre autres là, par d'anciens collaborateurs de Liberté, je dirais que l'héritier est d'abord littéraire. Publié dans le premier numéro de la revue, l'essai d'Isabelle Daunet, donc je vais vous en parler pour mieux exemplifier mon propos. C'est donc un essai d'Isabelle Daunet dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'intitule « La vitesse littéraire, la lenteur ». Et dans cet essai, l'héritier apparaît comme habitant une distance avec le monde que va symboliser la littérature même. Donc là, deuxième citation, longue. À la question posée par le héros du Milieu du jour, donc Milieu du jour, c'est un livre d'Yvon Rivard. Donc, à la question que pose le héros du Milieu du jour, comment traverser sans s'y noyer les moments du jour où le vide du présent vous englobe jusqu'à vous éloigner de tout? Il faudrait sans doute répondre avec l'auteur, Yvon Rivard, de tout miser sur cet éloignement. Citation de Rivard. Prendre congé de sa propre histoire, de l'histoire écrite par le désir pour apprendre à vivre et à mourir auprès des choses, pour voir et supporter l'extrême fixité des choses qui passent. Fin de la citation du verre. Car alors la fixité cesse pour devenir mouvement, mais un mouvement lent, ce mouvement même qui fait commencer d'autres histoires ou les raconter à nous. Fin de la citation. Daunet donne à lire un éthos d'essayiste littéraire qui reste au plus près des œuvres, va les faire dialoguer entre elles dans son article, et donc qui fait dialoguer les œuvres, mais en retrait du monde. En éclairant l'une avec l'autre, Daunet demeure à l'intérieur de la bibliothèque idéale. Actualiser ce qui serait une mémoire littéraire, éclairer le présent avec celle-ci n'a pas de sens pour elle, ça reviendrait à fixer la mémoire, à en refuser le mouvement et donc l'essence. Et donc, dans le texte de Daunet, par exemple, Yvon Rivard, Gabriel Roy, qui est convoqué aussi plus loin, sont convoqués comme des écrivains dont l'œuvre est déjà connue, c'est des œuvres qu'on peut analyser sans vraiment de mise en contexte, sans d'explication, sans de référence même. Des fois, les œuvres sont citées sans qu'on nomme leur auteur, les auteurs sans les concepts qui leur sont associés. Donc les œuvres sans les auteurs les concepts sans les œuvres. Bon. Et Daunet, par exemple, dans ce texte, va aussi parler de Rilke, qu'elle le cite comme disait Rilke. Bon, OK. Et donc, Rivard, Rilke et Roy apparaissent comme faisant partie d'un canon dont on suppose finalement que le lecteur implicite de la revue connaît intimement. Et à l'inconvénient, je dirais que l'héritier est un fier héritier de la littérature, d'une certaine idée de celle-ci, et que c'est la distance que cette littérature entretient avec le social qu'il revendique comme un legs quasi exclusif. Les revues vont rarement reprendre, de manière générale, des textes publiés dans d'autres revues. Elles ne vivent pas vraiment de camarades revuistes, dans la mesure où, dans les textes, il n'y a pas souvent mention des autres revues. Ce qui n'empêche pas, bon, sur un autre plan, qu'il y a plusieurs collaborateurs, collaboratrices qui bougent d'une revue à l'autre. par exemple, Rivard va écrire dans L'Inconvénient, Ricard va écrire dans Contre-jour. On a lu Mathieu Arsenault dans Liberté et dans Contre-jour aussi. Donc, il y a du mouvement, par exemple, entre elles. Mais rarement dans les revues, rarement une revue va critiquer les positions des autres. Même s'il y a eu quelques attaques, disons, voilées entre Contre-jour et L'Inconvénient au début, il n'y a pas d'hostilité déclarée entre elles. Sauf de la part de la conspiration dépressionniste, toujours prête à mettre les points sur les hic des mots satiriques, critiques, cyniques et ironiques. Les vieilles revues sont de l'avis de la conspiration dépressionniste, désespérément ennuyeuses et possèdent, disent-ils, un certificat de conformité sociale. Il en va, et là je les cite, « Il en va ainsi de la soporifique spirale, de l'inutile argument, pour ne rien dire de la consternante survie de l'Action nationale. Mathieu, ta mère t'appelle. Aussi, n'hésitons pas à dire que les grandes revues sont celles qui savent mourir. » Fin de la citation. En 2007, la CONSDEP, comme j'aime les appeler, donc la CONSDEP s'attaque aussi à Liberté, évidemment, dont, disent-ils, les récents efforts devraient affliger n'importe qui. Il s'attaque évidemment à Dialogis, la revue fondée en 2003. Donc, il se passe vraiment quelque chose en 2003, avis aux chercheurs et chercheuses en histoire littéraire du contemporain. Donc, il s'attaque à Dialogis, qui semble évidemment avoir pour principal défaut d'avoir Jean-Simon Desrochers dans son comité fondateur. Et ils vont vraiment pas du dos de la cuillère. Si vous voulez en savoir plus, vous me le demanderez. Et ça, c'est aussi, ça m'a fait rire quand même, à L'Inconvénient, dans un texte de 2005. Ils écrivent « La collection complète de la revue dessine en creux l'outremont spirituel du Québec. » Ça m'a vraiment fait rire. Pour peu, on croirait à une conspiration dépressionniste diffusée par 10 médias. Bon. Donc, il n'y a qu'un temps, le présent et qu'un monde, celui où s'inscrit la revue. Dans le texte liminaire de l'anthologie, ceci, paru en 2009, la conspiration dépressionniste écrit « La conspiration dépressionniste n'est jamais apparue liée à un champ particulier, sinon celui entendu dans l'expression consacrée à être dans le champ. » Nostalgiques, les membres de la conspiration dépressionniste sont vraiment loin de l'être. Dans le texte inaugural, ils écrivent, je les cite de nouveau, « Notre sensibilité mise en commun nous permet de ne pas nous enfermer dans une sagesse de pépère, ruminant le passé sur fond d'une odeur gâtée de sirop d'érable bouilli dans la cabane à sucre de la Révolution tranquille. » Fin de la citation. Les révolutions trop tranquilles, les réformistes, la perpétuation du passé, les vieux pères pépères, les héritages qui sentent la poussière, les écrivains qui écrivent sur leur génération, tous sont à tourner en dérision. S'ils s'inscrivent dans la filiation des revues contre-culturelles des années 60 et 70, si on sent dans les textes la lecture des théoriciens critiques, l'école de Francfort notamment, des philosophes du 20e siècle, des penseurs marxistes, communistes, anarchistes, des grands écrivains de tout acabit, il reste qu'à la CONSDEP, il y a vraiment un refus net de tout héritage. Pas étonnant que dans les textes, ils mettent souvent de l'avant une éthos de jeunes rebelles. Ni Dieu, ni maître, comme disait l'autre. L'autre jour, à l'université, ma directrice de thèse, Martine-Emmanuel Lapointe... connaissant mon intérêt pour les revues, a mis dans mes mains le dernier numéro d'études françaises intitulé « Avec chic, volume jubilaire ». Dans les textes à caractère rétrospectif de cette revue savante, je retrouve des interrogations sur le legs, le lieu, l'héritage, les relais, les écarts, la transmission, l'avenir aussi. Je croise aussi cette belle citation de Georges-André Vachon que Martine Emmanuel Lapointe a mise en exergue de son texte. Ça va comme ça. Une revue littéraire, ce n'est pas d'abord un objet appartenant à la classe des livres imprimés. C'est plutôt, comme le furent en leur temps le marché ou la place publique, la cour princière, le salon, le café, le cabaret, un lieu où la littérature se fait. Autrement dit, une revue littéraire ou intellectuelle, c'est souvent une affaire d'amitié, de fédération des sociabilités et des solidarités. En 1974, dans le numéro qui souligne les 15 ans de liberté, Jean-Guy Pilon insiste beaucoup sur cette notion d'amitié, qui est pour lui la condition de possibilité de la revue. Je le cite. « Plaisir à se retrouver, plaisir à placoter, à se raconter des peurs, ça n'a jamais été un travail pénible, cette revue. Plaisir et amitié. Je pense que ça joue aussi, comme qualité et comme considération. » Fin de la citation. Et Pilon poursuit plus tard dans un autre texte, donc dans ce numéro-ci. Si liberté continue de paraître, c'est pour des raisons bien précises, surtout par les temps que nous traversons. Le comité de direction, par exemple, est formé, il est formé d'êtres généreux qui pratiquent l'amitié comme un art. Cette amitié profonde, dit-il, est simple, vivante, génératrice d'idées nouvelles et d'émerveillement. Pour sa part, Jacques Foch-Ribas, qui débarque à Liberté en 64, disait toujours dans ce numéro qui souligne les 15 ans de Liberté, il dit « Quant à moi, je ne voulais pas du tout faire une revue littéraire ou participer à une revue littéraire, mais participer à un groupe d'amis. Il me semblait que l'équipe était la chose la plus importante à tenter. » J'ai intitulé cette conférence « À partir de l'amitié ». S'il est vrai que le projet d'une revue naît souvent d'amitié généreuse ou pas, j'ai des revues donc d'un seul homme ou d'une seule femme, si la revue naît de la confluence de sensibilités, il est aussi vrai de dire que la revue elle-même crée une communauté de lecteurs et de lectrices qui y fondent leur appartenance, même si elle n'est que provisoire. Rien de définitif n'arrive à une revue. Une revue n'est pas une anthologie. Une revue est faite d'ombre et de lumière, disait André Bello. Bon, alors, Pascal, Louis-Daniel, Laurence Pelletier, Julien, Laurence Côté-Fournier, Simon, Joël, Élise, Marie-André, Marie-Hélène, Marie, Valérie, Anne-Renée, Émile, Zéa, Laurence Ouellette, Gabriel, Philippe, quand est-ce qu'on en fonde cette revue?